sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide, Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonjour et bienvenue sur la radio du Gymnase de Nyon. C'est Romain,
Enzo,
Lars
et Anna
qui vont vous accompagner au long de cette émission pour poursuivre les chroniques de nos autres camarades. Eh les gars, je vous ai ramené des archives sur l'école de Nyon de l'époque.
Ah oui, le groupe précédent avait parlé de la religion et des professeurs au sein de l'école.
C'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui a changé et ce qui est resté plus ou moins pareil qu'aujourd'hui. Et déjà, archives à toi, elle parle de quoi ?
En fait, c'est des anciens rapports de séances des profs où ils discutaient des élèves. Ça parle surtout des punitions qu'on donnait aux élèves, mais aussi de quelques convocations des parents.
Aujourd'hui, je ne suis même pas sûre que les profs fassent des rapports sur leurs réunions. Et puis tout est informatique, alors que ces archives sont manuscrites.
En même temps, c'était il y a plus de 200 ans.
200 ans ?
Eh oui, même plus, ces rapports datent de 1808, le début du 19e siècle.
Ça se voit quand même un peu quand on regarde l'écriture, c'est super dur à lire.
Ouais, c'est déjà un gros changement.
Et tu as parlé des convocations des parents ?
Oui, je me rappelle d'avoir lu dans un de ces rapports qu'il suffisait de 5 absences pour que les parents soient invités à aller discuter avec le prof qui les avait punis.
Oui, en gros, un peu comme aujourd'hui, quoi.
Pas vraiment, étant donné qu'au gymnase, les parents ne sont quasiment jamais convoqués, et en tout cas pas que pour 5 absences.
Oui, bon, bref, en tout cas, ce qui change énormément d'aujourd'hui, ce sont les sanctions.
Et pourquoi ?
Aujourd'hui, les sanctions sont les mêmes pour tous les élèves. Par exemple, après un certain nombre de retards, on doit nettoyer la cour pendant 1 heure, et si cela, ça suffit pas, on a des jours de renvoi.
Et elle est où la différence avec eux ?
Les sanctions étaient très variées, en fonction des élèves et des fautes commises.
Ça veut dire quoi, ça ? Chaque élève pouvait avoir une sanction différente ?
Dans les rapports de séance de l'école, ce sont tous les instituteurs et le doyen qui se réunissaient pour discuter des élèves, et c'est eux qui choisissaient des sanctions à appliquer.
Tous les profs ? Et ils parlaient de tous les élèves ? Ça devait prendre tellement de temps.
Oui, bon, il n'y avait pas autant d'élèves qu'aujourd'hui dans l'école, et il y avait seulement trois enseignants et un doyen.
Ah ok, et c'était quoi ces punitions du coup ?
Imagine s'ils étaient enfermés.
Tu sais quoi, c'est un peu ce qui se passait. Ils étaient envoyés au cachot.
Au cachot ? Ça fait peur, imagine ça aujourd'hui.
Et ils faisaient quoi de mal pour aller jusqu'au cachot ?
Effectivement, les punitions étaient beaucoup, beaucoup plus sévères qu'aujourd'hui. Mais si on lit les rapports, on peut avoir l'impression que les élèves étaient beaucoup plus souvent absents.
Et pourquoi ils étaient autant absents ?
Figure-toi que souvent, les élèves n'allaient pas en cours pour aider leurs parents au champ. Par exemple, je me rappelle de cette citation qui m'avait surpris. Un élève disait exactement ça. Mon père n'a pas le moyen de me nourrir et de m'habiller. Il faut que je travaille. On voit bien une grosse différence de situation sociale.
Quoi ? Ah oui, en effet, c'est vraiment pas comme aujourd'hui.
Moi aussi, je vais commencer à m'absenter pour aller cultiver des légumes si ça me permet de louper les cours.
Et l'école acceptait ça ?
Non, justement pas. C'est là qu'ils étaient plus sévères qu'aujourd'hui, alors qu'ils avaient quand même de bonnes raisons de rater les cours.
Et du coup, est-ce qu'ils choisissaient les sanctions ? Je veux dire, en fonction de quoi ?
Ça, j'en sais rien du tout. Mais je me rappelle d'avoir lu une phrase qui m'a étonné, qui disait comme quoi les parents des élèves avaient eux-mêmes le droit de choisir les sanctions de leur enfant.
Ah bon ?
Mais vu que c'était les parents à décider des sanctions, c'était plutôt cool alors, non ?
C'est vrai quoi, les parents ne vont quand même pas leur mettre de grosses punitions si ce sont leurs enfants. Encore moins si c'est de leur faute qu'ils sont punis.
Tu as raison, mais bon, on n'est pas là pour critiquer leur méthode.
Et à part ça, pourquoi vous pensez que ça a changé depuis ?
Je sais pas, peut-être qu'il y a une manifestation de la part des élèves ou des parents.
Mais pas du tout, t'as cru que c'était comme avec les rois qui gouvernaient mal et la population qui finissait par se révolter.
Pourquoi pas ?
Moi je pense plutôt qu'ils ont juste changé de directeur ou qu'ils ont décidé de changer le système.
Mais bon, après, on ne peut pas savoir si c'était la même chose pour tous les élèves.
Oui, tu as raison. Mais on voit tout de même que les élèves étaient parfois absents plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans aucune explication.
L'école était peut-être moins importante que maintenant.
Je suis pas sûr. Je pense que l'école était aussi importante pour les élèves, mais peut-être un peu moins pour les parents.
Ah bon, mais c'est le comble.
Oui, mais comme on l'a dit avant, la situation sociale et financière était beaucoup plus différente qu'aujourd'hui.
Oui, ok, je comprends. Merci de nous avoir partagé tout ça, Romain.
Avec plaisir.
En tout cas, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à écouter les prochaines émissions de nos camarades sur ce sujet.
c'était Gimme Gimme de ABBA. Vous savez pas, vous savez même pas ce qui m'est arrivé en venant au studio ce matin.
Dis-nous.
Un homme m'a interpellé à la gare pour me demander si je croyais que la Terre était plate ou ronde.
Mais c'est ridicule.
Bah écoute, les platistes y croyaient encore.
Les platistes? C'est quoi ça encore?
Tu connais pas. C'est quelqu'un qui croit que la Terre est plate. J'ai même vu un documentaire Netflix sur la communauté platiste des États-Unis. Là-bas, environ 16% de la population y croit.
Que la Terre est plate? Il y croit encore aujourd'hui? C'est au Moyen-Âge qu'on croyait à tout ça.
Oula, fais attention à ce que tu dis. Hein. Je crois que Anna ne sait pas trop, n'aime pas trop qu'on dise ces choses-là. Même si franchement, j'ai pas trop compris pourquoi.
Ah, mais heureusement que je suis là. Je vais vous expliquer.
Expliquer quoi? On sait bien que la Terre est ronde. J'ai appris à l'école que l'équipage de Magellan l'a d'ailleurs découvert en 1522 en faisant le premier tour du monde.
Ils ont effectivement fait le premier tour du monde, mais ils n'ont rien découvert de tout ça. Hein. Ça faisait déjà plus de 2000 ans qu'on savait que la Terre était ronde.
Ouais, c'est là que j'ai décroché la dernière fois qu'il m'a expliqué.
Depuis plus de 2000 ans, donc au Moyen-Âge, on sait que la Terre était ronde.
Premièrement, elle n'est pas plus ronde que plate, elle est sphérique.
Oui, bon, je crois qu'on avait compris. Hein.
Mais oui, on savait que la Terre était une sphère depuis l'Antiquité. Les plus vieilles traces de ce savoir proviennent des savants grecs, comme Aristote.
Ah, c'est vrai que maintenant, tu le dis, je me souviens qu'en maths, on avait vu que Ératosthène avait réussi à calculer le rayon terrestre à l'aide d'un puits et d'un bâton. Il savait donc que la Terre était une sphère.
Eh oui.
Attendez, vous parlez d'ici de scientifiques, mais le commun des mortels du Moyen-Âge ne savait pas tout ça.
Oui, tu as raison, mais cela n'a pas suffi pour démontrer à la population que la Terre était ronde. Effectivement, un moyen très simple pour démontrer cette théorie est vite apparu. Il suffit de regarder un bateau s'éloigner au large. Il disparaît toujours la coque en premier et le mât en dernier. Cela montre bien que la Terre est courbée. Mais les platistes ont toujours cherché des moyens pour prouver l'inverse. Selon eux, le bateau disparaît seulement car il est trop loin.
Et au Moyen-Âge, tout le monde savait ça?
Oui, en tout cas, ils le savaient autant qu'aujourd'hui.
Et j'imagine que sans Internet, les platistes de l'époque faisaient beaucoup moins de bruit.
Et l'Église dans tout ça? Ce ne serait pas elle à avoir fait croire à la population que la Terre était plate?
Attention, encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. L'Église sait depuis longtemps que la Terre est une sphère. Ce qu'elle a par contre longtemps défendu, c'est le fait que le Soleil tournait autour de la Terre et non l'inverse.
Ah oui, là je m'y connais. C'est Copernic qui a démontré que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Mais cette découverte date seulement du XVIe siècle.
Mais alors d'où vient ce mythe du Moyen-Âge qui croyait que la Terre plate?
Eh bien, le Moyen-Âge est souvent perçu comme une période sale où les gens étaient tous illettrés et pas très cultivés. En plus, lorsqu'est venue l'époque des explorateurs, Christophe Colomb et Magellan, je crois qu'on dit ça comme ça, sont devenus des héros et au fil du temps, ils ont été désignés comme ceux qui avaient découvert la Terre ronde.
Donc, pour résumer, cette histoire de la Terre plate au Moyen-Âge était seulement un mythe.
Si j'ai bien compris, oui. Mais comme aujourd'hui, il y a toujours certaines personnes qui n'y croient pas.
C'est bon à savoir. À mon avis, si tout le monde connaissait la vérité sur ce mythe, je suis sûr qu'il y aurait moins de platistes aujourd'hui.
C'est vrai que quand on sait qu'il a été prouvé, il y a plus de 2000 ans déjà, que la Terre est sphérique, il y a de quoi être d'accord.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés.
Et pour nos auditeurs les plus curieux, on vous transmet nos sources. Le site Actuel Moyen-Âge et un interview de France Culture.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming. are seated in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you. We're jamming,
jamming, jamming, jamming,
and jamming up your jamming too. Channels are much to try, the truth again and high, to keep you satisfied. True love I now exist is the love I can't resist, so jam by my side. We're jamming.
Et voilà, vous avez écouté Jamming du fameux Bob Marley.
Bon les gars, on parle de quoi maintenant ?
De l'histoire de la préhistoire.
Ah oui, c'est plutôt compliqué ce sujet-là.
Mais non, c'est facile, il faut juste bien mettre les choses dans leur contexte.
Bon alors, tu vas nous expliquer parce que j'ai pas trop écouté les chroniques des autres groupes.
Si je peux poser une question, pourquoi le sujet s'appelle Histoire de la préhistoire et pas juste préhistoire ?
Ah ouais, vous êtes vraiment perdu. On étudie en fait la notion de préhistoire, parce que c'est facile aujourd'hui de comprendre que l'homme a évolué de l'homme préhistorique et que tout ça et que tout cela est scientifique. Mais pendant plusieurs siècles, on ne pouvait même pas penser que la préhistoire avait existé.
Oui, oui, c'est vrai que je me souviens de ce que le dernier groupe nous a dit. Il nous a parlé de la génération spontanée.
La génération spontanée, mais c'est une fausse théorie, j'ai vu ça en biologie.
Effectivement, c'est ce qu'ils nous ont dit. En fait, au XVIe siècle, beaucoup pensaient que la vie pouvait être créée à partir d'un environnement non vivant. Par exemple, que les rats naissaient dans la paille pourrie et tout le monde y croyait, même beaucoup de scientifiques reconnus.
Ah oui, comme Descartes par exemple. C'est vrai que du coup, à cette époque, j'imagine bien que l'on ne connaissait donc pas le concept d'évolution. Et par conséquent, on ignorait tout de la préhistoire.
Et ben voilà, vous êtes pas si bête quand vous réfléchissez un peu. Effectivement, beaucoup y croyaient encore au début du XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'on va parler maintenant de la fin du XVIIIe et du XIXe, pour voir s'il y a eu du changement dans la science et surtout dans les mentalités.
Oui, ok. On commence par quoi ?
Premièrement, on va s'intéresser à la naissance de la préhistoire au XVIIIe siècle.
La naissance de la préhistoire ? On sait bien qu'elle correspond à l'apparition de l'homme environ il y a 8 millions d'années et pas au XVIIIe siècle. Je ne vois pas où tu veux en venir.
Oui, mais la naissance de la notion de préhistoire, si tu préfères. Parce qu'au XVIIIe, on avait bien compris que la Terre était plus vieille que 6000 ans, mais il restait beaucoup d'incertitudes concernant l'apparition de la vie sur Terre.
Ah oui, les 6000 ans qu'on avait déduits des 6 jours de la création de la Terre dans la Bible. Mais c'est déjà une belle avancée dans les mentalités.
Oui, tu as raison. Tu vas voir que ça ne va d'ailleurs pas cesser d'avancer. Mais cela prend du temps, il ne suffit pas de trouver quelques fossiles pour comprendre qu'il s'agit là d'ossements préhistoriques.
Mais il y a bien quelqu'un qui a eu la bonne théorie à un moment.
Oui, il y a Lamarck par exemple, qui à la fin du XVIIIe avait émis l'hypothèse que tous les êtres vivants avaient évolué à partir d'un ancêtre commun très vieux, que le déluge de la Bible n'avait pas existé et que tous les fossiles qu'on trouvait étaient simplement des espèces disparues.
Mais c'est exactement ça, pourquoi ils ne l'ont pas compris alors ?
Ils s'opposaient clairement aux thèses fixistes et à toute l'histoire de la création divine.
C'est ça, les gens ont préféré se rattacher à la thèse de Cuvier, qui laissait toujours une place à un acteur divin.
Cuvier ? Mais c'était un brillant scientifique qui a fait beaucoup de découvertes. Je sais qu'il avait compris que l'on pouvait analyser un spécimen entier seulement en possédant un de ses os ou un fossile. Comment a-t-il pu se tromper ?
Ouais, en fait, il était très intelligent. Mais il a trouvé une autre théorie qui se rapprochait plus de la Bible. Il avait compris qu'il avait existé des espèces disparues, ce qui n'était pas concevable à l'époque, mais les expliquait en affirmant que la Terre avait été frappée par plusieurs déluges et qu'il les aurait fait tous disparaître.
Plusieurs déluges ? Plusieurs fois l'histoire de Noé, donc ? On n'appelle pas cette croyance le catastrophisme ?
Si. Et les gens ont donc évidemment préféré cette version.
Et les découvertes de Lamarck, elles n'ont servi à rien ?
Si, justement. Maintenant, on va parler d'un personnage que je suis sûr que vous connaissez, et qui a joué un rôle très important pour la science.
Albert Einstein ?
Non, je pense qu'il voulait plutôt parler de Darwin.
Oui, c'est plus dans le contexte, car il s'est en effet beaucoup renseigné sur les théories de Lamarck.
Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui a réussi à imposer la notion d'évolution.
Oui, Darwin a beaucoup voyagé et étudié les espèces en 1859. Il a publié son livre « L'origine des espèces ».
Ça aussi, j'ai vu en bio. C'est Darwin qui a découvert la sélection naturelle et la manière dont évolue chaque espèce.
Oui, tu as tout juste. Et pour ta culture, c'est pour ça que 1859 est une des dates les plus importantes de l'humanité.
Ok, donc on peut considérer cette date comme la découverte de la préhistoire.
Oui, on peut dire ça. Mais attention, ce n'est pas encore la découverte de l'homme préhistorique.
Ah bon ? Mais elle est interminable, ton histoire.
Oui, En fait, au fil des années, des découvertes plus nombreuses, les théories loufoques commençaient à se faire de plus en plus diverses et variées.
Loufoques, pour nous, mais à l'époque, elles devaient être crédibles pour beaucoup de monde.
Oui, bien sûr.
Mais on avait quand même déjà trouvé des squelettes d'hommes préhistoriques.
Oui, et pas qu'un ou deux. Sauf que le cadre culturel ne permettait pas de dire qu'il s'agissait d'hommes, puisqu'ils étaient bien trop différents de nous et que l'homme était censé être une création divine et parfaite. On essayait toujours de ramener les découvertes à des théories déjà existantes.
En bref, l'homme préhistorique est plus une invention qu'une découverte.
D'une certaine manière, on peut le dire ainsi.
C'est bien Lael qui a affirmé publiquement la découverte du premier homme préhistorique, ou je me plante?
Non, tu as juste. C'est bien lui qui l'a fait en 1859, dans un discours.
Décidément, 1859... Mais comment est-il arrivé à affirmer cela ?
Eh bien, tout parle d'un collectionneur de silex. Lael était un géologue et il s'est intéressé à ces objets pour pouvoir les dater.
Et je suppose qu'il les a estimés être bien plus vieux que 6000 ans.
Tu vois quand tu peux.
On n'a pas vu que le collectionneur s'appelait Boucher ?
Oui, monsieur Boucher de Perthe, qui d'ailleurs affirmait qu'un autre type d'homme avait existé avant nous. Il avait comparé les outils qu'il collectionnait et ceux de son temps. Conclusion peu surprenante, ils étaient bien différents. Mais on l'a considéré comme un amateur et il n'a jamais été pris au sérieux.
Mais Lael, dans l'histoire, il fait quoi ?
Il a tout simplement repris les découvertes de Boucher de Perthes et a eu le courage de les affirmer devant l'Association britannique pour l'avancement des sciences, qu'il avait existé un ancêtre avant nous, et c'est même lui qui le nomme homme préhistorique.
Ah, enfin, on y est !
Et personne avant lui le savait, ou bien ils avaient juste peur des conséquences?
Oui, certains scientifiques avaient peut-être aussi la même théorie, mais ils avaient peur d'être choqués. Par exemple, Darwin le savait très certainement, mais il ne l'a pas dit tout de suite.
Comment tu sais ça?
Eh bien, dans l'entièreté de son livre, il a choisi parmi ses exemples de toujours citer des animaux ou des plantes, mais jamais l'homme. Et puis son livre finit comme ceci. Un supplément de lumière sera un jour jeté sur l'origine de l'homme et son histoire.
Bah oui. C'est vrai que là, on voit bien qu'il a préféré de ne pas se prononcer. Mais qu'il voyait bien qu'il y avait dans l'origine de l'homme plus qu'une apparition divine.
Ça m'a l'air très bien dit ce que tu dis là.
Oui, voilà. Et ensuite, la science a avancé beaucoup plus vite, car on savait maintenant ce que l'on cherchait et de quoi il s'agissait.
Donc, pour résumer, la fin du 18e et le 19e, l'homme a compris que la Terre était bien plus vieille que 6000 ans, que toutes les espèces avaient évolué d'un ancêtre commun, et qu'elles continuent toujours d'évoluer. Même chose pour l'être humain et surtout l'invention de la notion de préhistoire et d'homme préhistorique.
Ok, je crois que j'ai compris maintenant. Merci pour ces explications. C'est intéressant de voir le temps qu'il a fallu pour que ce savoir qui nous paraît si évident aujourd'hui soit possible. Et ça fait réfléchir aux découvertes actuelles. Peut-être qu'un jour, on nous prendra aussi pour des débiles.
C'est vrai.
Et oui. Et on vous laissera écouter la suite de ce feuilleton sur l'histoire de la préhistoire dans les épisodes suivants.
I'm blinded by the love.
et c'était Blinding Lights de The Weeknd.
Et les gars, je sais pas si vous avez lu, vu, mais il y a un nouveau débat sur les réseaux sociaux en ce moment.
Ah bon ? Un débat sur quoi ?
Les Simpsons.
Les Simpsons ?
Mais oui, tu sais, la grande série télévisée américaine avec les personnages jaunes, là.
Ah, mais oui.
Et du coup, c'est quoi le débat en rapport avec eux ?
Bah, apparemment, certaines personnes pensent qu'ils prédisent le futur.
Ah, mais oui, j'avais fait pas mal de recherches il y a pas longtemps parce que ça m'avait intrigué. Par exemple, j'avais vu un tweet qui parlait d'un épisode des Simpsons qui apparemment aurait prédit la mort de George Floyd.
Et c'était quoi le tweet ?
C'était quelque chose du genre « mort de George Floyd, les créateurs des Simpsons l'avaient-ils réellement prédit ?»
Non mais c'est ridicule ! Comment est-ce qu'ils auraient pu prédire exactement sa mort et pas celle de quelqu'un d'autre ?
C'est vrai que c'est bizarre parce que l'épisode a été diffusé bien avant sa mort, donc comment aurait-il pu l'inventer avec autant de ressemblance à la réalité ?
Bah justement, cette image ne figure pas dans la série. C'est tout simplement un montage fait par un artiste italien qui s'appelle Yuri Pomo et qui a voulu se servir d'un des dessins animés les plus connus dans le monde pour nous rendre conscients de la gravité de la situation. Mais les gens n'avaient pas compris que ça ne venait pas tout droit d'un des épisodes originaux, donc ça a été interprété en tant que fake news.
Mais j'en avais vu d'autres des prédictions comme celle-ci sur internet. Par exemple, comment t'expliques le fait qu'ils avaient prédit le coronavirus et même l'incendie de Notre-Dame ?
Justement, ils n'ont en fait rien prédit du tout. Ce ne sont que des mises en scène, des fake news.
Bah, c'était sûr que c'était que des boutades.
Bah, franchement, moi j'y croyais.
Mais attends Enzo, qu'est-ce que t'entends par des mises en scène ?
Dans un épisode de la série, dans la saison 4, je ne me rappelle plus exactement duquel, on voit une épidémie qui se propage dans toute la ville et on retrouve les personnages du présentateur Kent Brockman qui annonce cette pandémie. On voit derrière lui un panneau avec écrit « La grippe Osaka » qui a été modifiée par la suite en coronavirus.
Mais t'as vu ça où ?
Sur Instagram, il me semble.
Et pourquoi l'ont-ils modifié ?
Bon, je pense que vu que c'est quelque chose d'actualité, les gens se sont amusés à faire n'importe quel montage sur le coronavirus. Sûrement pour faire le buzz.
Pff, ils en ont des idées, les gens.
Et en ce qui concerne l'incendie de Notre-Dame ?
En réalité, cette scène aussi a été modifiée, bien que la foule soit ravagée dans l'épisode, l'église ne s'enflamme pas.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ces fake news sont autant crues et dispersées dans tout le monde.
On aime bien croire à tout ce qui est irréaliste, tu sais. Ou bien il suffit d'être naïf comme toi et on y croit.
Pff, t'es drôle toi, hein. Non mais sérieusement, c'est quand même dingue, quoi.
Bah, il a un peu raison, Lars. Ces fake news tournent beaucoup grâce au réseau. Il suffit de croire à tout ce qu'on lit sur internet et d'en parler avec ses amis, et ces fake news sont vite répandues.
Ça semble logique en effet.
Et comment Matt Groening, le réalisateur et le créateur de la série, a pensé à ces prédictions ?
Eh bien, en réalité, la plupart des choses prévues dans la série, comme l'élection de Donald Trump, n'étaient pas complètement surréalistes. Donald Trump avait déjà dit qu'il se présenterait au présidentiel et c'était de loin l'une des célébrités les plus ridicules qui prévoyait d'être président. Et l'ont donc représenté en tant qu'ancien président qui avait laissé énormément de bordel derrière lui.
Ah ouais, il est malin celui-là. Mais bon, certaines personnes ont quand même regardé la série et ont bien remarqué que certaines de ces informations n'étaient pas correctes.
Mais tu sais qu'il y a 717 épisodes et 33 saisons. Du coup, je ne pense pas que les gens se souviennent de chaque détail. Et étant donné qu'il y a souvent des caricatures de vrais personnages et des lieux, et donc souvent ça mène à confusion et ça peut facilement être mal interprété par les gens.
Mais Enzo, comment tu sais tout ça ?
Suffit de regarder sur le site 20 minutes, celui de la RTL, celui du Brut Média ou bien encore sur celui de la NSF. Et pour retrouver certains de ces articles, rendez-vous sur le site Dailymotion.
On y passera faire un tour alors.
Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Merci d'avoir écouté la radio du Gymnase de Nyon. On était avec Anna, Enzo, moi et Romain. Pour écouter la suite de nos chansons chroniques, on vous laisse écouter les émissions suivantes de nos camarades.